Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors hier encore, nous évoquions les mots qui ne sont pas prononcés et qui provoquent des maux du corps. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de ce corps qui trop souvent nous fait souffrir. Alors la douleur, c'est certes un signal d'alarme qui indique qu'il y a un dysfonctionnement, elle doit être prise en compte, mais est-ce qu'elle est réellement naturelle? Est-ce que c'est l'état naturel du corps de souffrir? À mon avis, non. Alors c'est quoi l'état naturel du corps? Est-ce que c'est le silence de nos organes? Michel Odoul pourra mieux quiconque répondre à cette question. Et puis il pourra également vous aider à mieux interpréter une douleur corporelle. Et n'hésitez pas, donc, si vous avez mal quelque part, à venir tout de suite nous appeler et témoigner au 0826 300 300. On va aussi essayer de trouver quel serait l'inverse de la douleur. Alors l'inverse du bonheur, c'est le malheur. L'inverse de la souffrance, c'est la jouissance. Et figurez-vous, en préparant l'émission aujourd'hui, j'ai regardé, il semblerait que la zone de la douleur est très proche de celle du plaisir dans notre cerveau. Alors serait-ce pour cela que tant de gens ont du mal à accéder au plaisir? Voilà le programme du jour en tout cas, et si vous avez envie de nous rejoindre, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul.
Bonjour Brigitte.
Alors vous êtes le fondateur de l'Institut français de Chiatsu en France, et vous êtes également l'auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » aux éditions Albin Michel, qui est un peu la bible du corps. Hein. Si ça vous va comme...
C'est très flatteur.
C'est vrai. Si on veut un peu mieux comprendre notre corps, je pense qu'on ne peut pas se passer de ce livre.
Bah écoutez, merci.
Il paraît qu'il va même sortir en Russie.
Alors, oui, ça y est.
Vous vous rendez compte?
Oui, c'est vrai que... il a un écho qui est un écho international et il a un écho qui s'inscrit dans le temps, puisque ça fait 25 ans qu'il est sorti et il continue à avoir toujours autant de succès, et je suis ravi de ça. Alors cette notion et cette idée de Bible, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Alors oui, c'est une sorte de référence en tout cas sur la première des choses qui doit être essentielle pour moi, pour un individu, c'est que lorsqu'une zone corporelle est douloureuse et en tension, et que ça prend une certaine intensité ou que ça se reproduit, il faut sans doute s'interroger sur ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque notre corps nous met en tension ou en souffrance, il nous interpelle, il nous appelle, il essaye de faire que nous portions notre attention sur la zone dans douloureuse et sur ce qu'elle peut signifier. On dit d'ailleurs en médecine chinoise que la douleur ou la maladie commence à apparaître dans une zone corporelle où la conscience est partie, dont la conscience n'est plus présente. Et je crois qu'il y a derrière ça, sans doute, quelque chose véritablement à comprendre. Alors, sans doute, peut-être que derrière une douleur au genou, j'ai une tension particulière dans ma vie relationnelle aux autres. Sans doute que lorsque j'ai des aigreurs d'estomac, je suis peut-être en train de ressasser et de ruminer un certain nombre de choses.
J'arrive pas à digérer.
Voilà, et comme disaient nos grands-mères à une certaine époque, peut-être que quand j'ai mal au dos, ça veut dire que j'en ai plein le dos, et que si j'ai des migraines, que quelque chose me prend la tête. Et il faut surtout être très prudent par rapport au fait de se dire « Oh là là, mais quel discours un peu simpliste, etc. » Le discours des grands-mères, le discours des traditions est un discours qui s'est forgé à l'aune des siècles, voire des millénaires.
De l'écoute et de l'observation,
et du bon sens,
en fait.
Voilà. Hein, et que derrière cela, il y a peut-être des mécanismes qui sont à comprendre. Aujourd'hui, avec la médecine moderne, avec les scanners, avec ce qu'on appelle les PET scans, avec les visualisations du cerveau et des zones qui travaillent. Tout à l'heure, vous parliez de la différence. Qu'est-ce qu'était l'inverse de la douleur ou du plaisir? On voit que ce sont des zones cérébrales qui sont activées assez proches. Eh bien, on voit bien qu'entre le champ émotionnel et le champ corporel, il y a des liens qui sont très forts et qui passent toujours par la même structure physique qui est le système neurovégétatif et le système endocrinien. Et qu'à travers cela, eh bien, le système neurovégétatif et le système endocrinien, ce sont des messagers. Ce sont des vecteurs, ce sont des neurotransmetteurs, ce sont des éléments donc, qui amènent de l'information.
Qui dit messager, dit message.
Et dit message, donc corps qui souffre égale message.
Est-ce que vous êtes d'accord, l'état naturel du corps, ce serait le silence de nos organes?
Oui, c'est le silence et la paix. Il se trouve que lorsqu'il est dans le silence et dans la paix, nous ne faisons pas attention à lui et nous ne prenons surtout pas les précautions qui conviendraient pour qu'il continue à rester dans le silence. Et c'est lorsqu'il s'exprime, c'est-à-dire qu'il devient désagréable et inconfortable, qu'à ce moment-là, on commence à porter attention à lui. Donc la douleur est effectivement un signal. Elle n'est pas, entre guillemets, un état naturel. En revanche, elle est un moyen naturel pour que quelque chose à l'intérieur de nous attire notre attention.
Et donc, Michel Odoul, vous le dites souvent hein, quand vous venez à Sud Radio, vous dites souvent, bon, on a un peu mal quelque part, bien sûr on peut prendre un médicament, ça va calmer la douleur sur le plan immédiat, mm-hmm. mais peut-être que ça ne va rien résoudre.
Mais ça ne résoudra a priori rien. Mais il faut être très prudent aussi sur cela quand on en parle. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire aux praticiens que je forme que si quelqu'un a vraiment mal à la tête, c'est mieux qu'il prenne une aspirine. Parce que quand on a la tête qui est prise, on réfléchit mal. Mais si la prise de l'aspirine est purement simplement destinée à anesthésier le travail qui est à faire, ça n'est pas quelque chose de favorable et de bon. Si la prise de l'aspirine est accompagnée du bon questionnement, c'est-à-dire quels sont mes modes de vie, quels sont mes comportements, qu'est-ce que c'est qui me conduit à avoir cette migraine, à partir de ce moment-là, il n'a jamais été question de dire qu'il ne fallait pas s'occuper de la douleur, qu'il fallait l'ignorer, ou qu'il ne fallait pas traiter la maladie. Mais qu'en revanche, il faille le faire en conscience, c'est-à-dire en se posant les questions, parce qu'une maladie n'arrive jamais par hasard quelque part, elle arrive sur un terrain qui lui a ouvert la porte à un moment donné, un comportement accidentogène qui produit à un moment donné l'accident, ce que Freud appelait un acte manqué, eh bien, c'est quelque chose qui est le résultat d'un certain nombre de modes de vécu, d'habitudes de vie, de modes de pensée, de façon d'être, etc., qui font que, ben, à un moment donné, dans une pièce, il y a 15 personnes, le virus de la grippe est présent, il y en a 5 qui auront la grippe, 10 qui ne l'auront pas.
Tout simplement parce qu'il y en a 5 qui ont un système immunitaire un peu déficient, trop fatigué, parce que des soucis amoureux, professionnels.
Soucis amoureux, mauvaise alimentation, etc., etc. Ou nécessité à éliminer, parce que la grippe, vous savez, c'est une pathologie qui est assez intéressante, parce qu'elle produit de la fièvre, elle produit de la fatigue et des courbatures. C'est-à-dire qu'elle produit exactement les trois choses que nous produisons nous-mêmes quand nous faisons, par exemple, du sport ou une activité physique. Et qui sont tous les trois la signature que nous éliminons quelque chose et que nous nettoyons des toxines dans notre corps. Et que le fait grippal est aussi un fait qui est peut-être destiné à éliminer, à nettoyer un certain nombre de choses. À nouveau, ça ne signifie pas qu'il faille l'éliminer, mais que parfois, quand nous l'avons, il ne faut pas être en colère après la grippe que l'on a, il faut peut-être l'accueillir comme quelque chose qui est un signal de nettoyage nécessaire.
Et en profiter pour rester tranquillement 3 jours au chaud.
Par exemple.
Et se repositionner pour aller mieux. Ouais. Voilà, c'est vrai que tout ça n'est pas tellement encore rentré dans nos mœurs, ça l'était finalement peut-être plus il y a un siècle.
Oui, c'était même très très... moi j'ai puisé beaucoup de mes références dans la médecine traditionnelle chinoise et le shiatsu japonais, qui sont des traditions dans lesquelles le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. Ça existait dans nos connaissances. Hein, les tempéraments hippocratiques sont bien connus et Hippocrate disait que si nous étions de mauvaise humeur, peut-être parce que nous avions de mauvaises humeurs dans le corps, c'est-à-dire des mauvais liquides organiques. Donc il y avait cette espèce de connaissance. Et puis est arrivée la science glorifiante du 19e siècle, qui a été la science mécaniste, qui a apporté un certain nombre de choses, mais qui ne conceptualisait et ne concevait comme existant que ce qui était visible sous la lunette d'un microscope, ce qui était immédiatement démontrable. Et donc a petit à petit mis sur le côté, avec même un certain dédain pendant un temps donné, tout ce qui appartenait au champ du non-visible, au champ du subtil, au champ du psycho-émotionnel, etc. On est aujourd'hui en train de revenir là-dessus, hein, j'avais... publié sur ma page Facebook une étude qui a été publiée il y a à peu près 2 ans par l'université d'Aberdeen sur une manifestation particulière qui s'appelle le Takotsubo, qu'on appelle aussi le syndrome du cœur brisé, et où une étude scientifique extrêmement précise a démontré qu'effectivement, lorsque quelqu'un vivait un choc émotionnel de séparation, musculaires étaient réellement déchirées et laissaient une cicatrice cardiaque. Et que ces gens-là étaient donc des gens qui ultérieurement avaient une fragilité cardiovasculaire et qu'il fallait qu'ils fassent attention à ça. Parce qu'il y a une véritable relation, une véritable incidence entre des traumas émotionnels et des résultantes physiques ou des comportements physiques qui ont des composantes au niveau émotionnel.
Alors en même temps, dans cette émission, les gens sont assez ouverts à cette compréhension que les émotions ont un impact, créent des tensions ou au contraire du relâchement.
Le problème de la panne.
La panne sexuelle,
la panne sexuelle, regardez comment un stress émotionnel, une peur, une envie de trop bien faire, une peur de ne pas être à la hauteur, a une conséquence immédiate sur le plan physiologique. Oui, et donc je pense que les auditeurs qui vous écoutent, d'abord et d'une, ils viennent, je pense, entendre ce que vous avez à leur proposer comme éclairage, et Dieu sait si ça leur rend un certain nombre de fois service, hein, ils le disent suffisamment clairement, et ils sont tous dans ce besoin et cette attente de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et qu'est-ce qui leur arrive. Ils ne sont pas que dans le besoin de satisfaire un élément mécanique. Et je pense qu'effectivement, on peut avec plus de facilité pour évoquer un certain nombre de sujets.
Eh bien justement, on vous invite à venir nous parler de vos pannes, de vos petits soucis corporels, de vos petites douleurs. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Michel Odoul est avec nous et on va essayer de vous aider à mieux comprendre comment fonctionne votre corps, vos émotions et votre esprit, pour que justement vous soyez peut-être un petit peu maître à bord dans votre existence. Hein, parce que finalement, notre corps, on pourrait dire que c'est le véhicule, nos émotions, ce seraient les chevaux qui
tirent. C'est les chevaux qui tirent la calèche,
voilà,
absolument.
Et à l'intérieur de la calèche, il y a ce fameux maître que vous allez éclairer pendant 2 heures.
On va essayer.
Mais vous allez y arriver, j'ai aucun doute là-dessus, moi. Marjorie, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci bonjour, d'être
Michel.
Avec nous.
Bonjour.
Merci à vous, hein, parce que c'est quand Michel Odoul vient, c'est toujours un plaisir, de l'écouter et il nous apporte beaucoup, je trouve.
Je suis bien d'accord avec vous. Et vous avez raison d'en profiter, de profiter de sa présence. Parce que,
merci en tout cas.
On ne pourra pas prendre tous les appels, donc dépêchez-vous d'appeler Sud Radio 0826 300 300, c'est les premiers qui seront servis. Et donc vous êtes la première, Marjorie. Il vous écoute.
Voilà. Alors voilà, moi en fait j'appelle alors surtout pour une chose, parce que en fait j'ai eu beaucoup de sinusite cet hiver. Et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez en fait, d'où ça peut venir.
C'est la première fois que vous avez des sinusites l'hiver ?
Non, ça m'est arrivé mais il y a très longtemps, quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans, pendant 3 ans, j'ai eu des sinusites chroniques. J'étais à peu près malade de septembre à juin, non-stop. Et puis un jour c'est parti, et là ça faisait... j'ai 33 ans, du coup ça faisait... depuis tout ce temps-là que j'en avais pas eu en fait.
D'accord. Ça vous plaît ça, 33 ans, hein, Michel Odoul ?
Mais oui, c'est vrai qu'il y a énormément de symbolique corporelle qui se retrouve dans les grands mythes et les grands symboles. 33 ans, 33 n'est pas n'importe quel chiffre sur le plan symbolique. Que ça vous arrive à 33 ans est peut-être quelque chose qu'il faudra mettre en lien avec votre vécu. Qu'est-ce que c'est qu'une sinusite ? Il y a une perte de l'odorat avec ou pas ?
Non, c'est surtout des gros maux de tête au visage aussi, et de la fièvre.
Oui, c'est ça. Oui, parce que sur le plan de la mécanique pure, la sinusite est un engorgement donc des sinus avec un état infectieux qui est plus ou moins intense et plus ou moins fort. Si ça vous génère de la migraine, etc., je pense qu'il faut que vous traitiez la chose médicalement parlant. Et en revanche, que vous la mettiez peut-être en perspective avec vos vécus. Alors, qu'est-ce que la sinusite essaye de nous dire ? Nous sommes au niveau des zones nasales, nous sommes au niveau des zones du nez. Le nez est une zone très particulière qui a la charge d'un sens qui s'appelle l'odorat et dont la particularité est que les capteurs qui sont au niveau nasal sont directement branchés, connectés à notre cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, qui est notre cerveau chaud et notre cerveau émotionnel. L'odorat, c'est le sens le plus animalien que nous puissions avoir, et c'est pour ça qu'il est branché avec le cerveau qu'on appelle le cerveau mammalien. Nous sommes donc là en présence de quelque chose qui concerne les innéités les plus profondes, nos racines animales, notre animalité profonde. Que ça vous soit arrivé à l'époque de l'adolescence, qui est une phase où il y a un certain animal qui est en train de se construire en nous, et que ça vous arrive à l'âge de 33 ans, qui est un âge qui est en lien très très précisément avec les injonctions du père, on peut peut-être déjà commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui vous fait mal à sentir et à ressentir par rapport à cette symbolique-là. Ensuite, la deuxième des directions dans lesquelles il y a une piste à réfléchir avec la sinusite et les problématiques liées au nez, c'est qu'à travers l'odorat, nous sommes en prise, à travers ce champ de l'animal, avec le premier des instincts fondamentaux de l'animal, qui est celui de la survie et de la sexualité, et par extension de l'intimité. Les animaux ont ce sens de l'odorat parce qu'il permet de repérer l'autre dans ses intentions et parce qu'il permet de sentir, pour le mâle, si la femelle est en état ou non de procréer. Il y a une racine animalière et olfactive extrêmement puissante qui est encore agissante en nous. Et lorsque la sinusite est là, eh bien c'est que sans doute il y a des Qu'est-ce que c'est la sinusite ? C'est quelque chose qui est infectieux et qui pourrit en nous. Il y a donc sans doute des vieilles idées, des vieux schémas ou des vieilles blessures qui datent de l'identité et de l'accueil de votre capacité à jouir de façon viscérale et animale de la vie et du vivant, qui sont sans doute pas tout à fait encore avérés et pour lesquels la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui à 33 ans, sans doute en lien avec quelque chose qui est masculin, fait revenir ces émotions de fond qui étaient des émotions qui n'ont pas pu se régler à l'âge de l'adolescence.
Ça vous parle tout ça, Marjorie ?
Ben, en fait, ça me parle dans le sens où c'est vrai qu'en ce moment, je me sens assez seule au niveau du couple, de l'affectif. Et en tout cas, la sexualité me manque. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être en lien avec...
Vous êtes en couple ou vous êtes seule aujourd'hui ?
Je suis seule.
D'accord, oui.
Je suis seule et j'ai eu il y a 2 ans maintenant, mais une rupture assez douloureuse. Où justement la sexualité était plutôt harmonieuse et saine, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça me manque. Donc je sais pas.
La rupture a eu lieu pourquoi ?
Oh, parce que le reste, ça n'allait pas trop, quoi. On s'entendait très bien sexuellement, mais c'était quelqu'un d'assez toxique, en fait.
Oui, vous pouviez plus le sentir.
Oui.
C'était un dominant ?
Ouais, c'est surtout qu'il avait un caractère, il était très cassant.
Mm-hmm. Il vous rappelait quelqu'un ?
Oui, mon père. Oui. Mm. Oui, oui.
Mais en même temps, ce qui est intéressant quand même à analyser, Marjorie, c'est que votre sinusite arrive après. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée au moment où vous deviez rompre. Alors, moi, je ferais juste une petite interprétation. C'est qu'il aurait peut-être fallu vous imposer plus durant la relation. Et cette rupture, quelque part, n'a pas permis de dépasser une problématique que vous aviez déjà au moment de l'adolescence. Et donc cette problématique, quelque part, elle se traduit, si vous voulez, en sinusite. Vous voyez
oui.
ce que je veux dire ?
Oui, je vois, oui.
Donc c'est peut-être important de comprendre comment vous pouvez justement dépasser ça, quoi, pour que la prochaine relation ne se reproduise pas de la même manière.
Parce que 33 ans, c'est l'âge de la mort du Christ. C'est-à-dire, c'est l'âge auquel le Christ est monté sur la croix pour respecter ce que le Père avait demandé. Et donc, il y a derrière cette phase-là et cet âge-là...
On parle de symbolique, là.
De symbolique, évidemment, hein, bien sûr. Hein.
Non, je précise, parce que tout le monde n'est pas forcément croyant, et ça pourrait choquer certains qui nous écoutent.
Non, mais là, on est dans le mythe. On est dans le mythe, on est dans le symbole. C'est-à-dire dans le symbole que l'individu, dans cette phase d'âge-là, est en nécessité pour pouvoir grandir et croître à faire la paix avec ce qu'a été l'image du Père. C'est ce qui permet de se redresser, de se tenir droit vers le ciel. Il faut savoir que quand on fait l'addition de toutes les vertèbres que nous avons dans le dos, il y en a 33. C'est-à-dire que nous avons donc une sorte d'échelle particulière à gravir au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos phases d'âge, dans lesquelles on résout un certain nombre de choses. Et nos pères ont été ce qu'ils ont été. Il y a un âge à partir duquel nous avons besoin de tourner la page et de faire la paix par rapport à ce qui a été avec eux et ce qu'ils ont représenté. Et manifestement, il y a des choses non réglées qui appartiennent à la phase de l'adolescence qui sont en train de réémerger, sans doute dans les suites à la rupture que vous avez vécue, mais qui sont en train d'émerger dans cette phase-là, montrant que ça n'est peut-être pas avec l'homme avec qui vous avez rompu qu'il y a des choses à régler, mais sans doute avec des images un peu plus anciennes.
Et ce qui est intéressant, encore une fois, sur un plan tout à fait symbolique, Marjorie, c'est que cet homme, sexuellement, c'était formidable. Donc vous aviez le sentiment, en tant que femme peut-être, que c'était la relation qu'il vous fallait, mais dans le quotidien, ce n'était pas gérable. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Vous voyez, Marjorie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit complexe d'Œdipe qui n'est pas tout à fait résolu.
Ouais, oui, parce que ça a été très compliqué, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que je savais très bien que ce n'était pas possible et qu'il fallait que je m'en aille, mais j'ai mis beaucoup de temps à y arriver parce que
sexuellement, c'était fort, oui.
Ouais, et puis il y avait d'autres choses aussi, mais du coup, c'était très, très compliqué. Et en plus, ça me parle beaucoup ce que vous me dites, parce que c'est vrai que Bon, je suis née en novembre, du coup, et c'est vrai qu'à partir de novembre, là, de 2018, donc j'ai commencé à avoir des sinusites et tout, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, je me sens plus triste et tout, donc ça me parle pas mal ce que vous me dites.
Oui, ben, il faut devenir adulte, Marjorie.
Oui.
en tout cas, les choses ne se règlent pas en laissant pourrir la situation.
Mais du coup,
écrivez peut-être écrivez une lettre à votre père. Écrivez une lettre à votre père, qu'évidemment vous lui enverrez pas, et écrivez une lettre à votre ex, et ensuite vous laissez un peu décanter et vous comparez. Est-ce qui aura été écrit à l'un et à l'autre, ça va vous sauter aux yeux, et à mon avis, ça sera très très révélateur de votre problématique.
Ouais,
okay. Mais quand ce sera fait, surtout ne les gardez pas, vous les détruisez. Oui, parce que sinon, ça va rajouter...
Oui, ça pourrit. Et du coup, après, j'ai pris la décision, là récemment de ne plus parler à mon père parce que ça n'avance pas, en fait. C'est toujours pareil. Chaque fois que je le vois, il me rabaisse. Donc, du coup, j'ai pris la décision pour moi d'arrêter. Et je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien ou... Du coup...
En tout cas, c'est ce que vous sentez.
Oui.
Donc... Sentez profondément et de temps en temps, prendre de la distance face à un parent toxique, c'est très bien. Hein. Moi, je ne suis pas dans le pardon et l'acceptation de nos parents, quels qu'ils soient.
Voilà, mais ne perdez pas de vue quand même que la personne avec qui vous avez quelque chose à régler, ce n'est pas votre père qui est à l'extérieur de vous, mais c'est l'image que vous en avez à l'intérieur de vous. Absolument. C'est avec ce père-là que vous avez quelque chose à régler. L'autre, il n'est plus le même qu'il n'a été à une époque, même s'il y a une incompréhension qui continue à exister.
Merci en tout cas Marjorie. On se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi réagir au 0826 300 300. Et puis surtout, si vous avez envie de gagner ces 4 passes pour découvrir en famille le parc Spirou Provence, c'est près d'Avignon, eh bien grâce à Sud Radio, on vous offre donc tout l'univers de Spirou et ses amis. Alors vous les connaissez, hein, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Boule et Bill, etc. Il y a des montagnes russes, des attractions, bref. Et donc on va vous proposer d'appeler et ce sera donc le 8e appel qui gagnera ces 4 passes pour le parc Spirou Provence. Et c'est évidemment le même numéro, 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans un instant et on va revenir sur nos blessures, nos cicatrices d'enfance.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors Michel Odoul, vous avez sans doute, comme tout le monde, des blessures d'enfance. Et Chablis Langlois a inventé une expression que j'aime beaucoup, des psychiatrices. Et alors on a évoqué avec vous les 7 psychiatrices qui peuvent nous avoir touchés pendant l'enfance. On a vu aussi que généralement il y en a plusieurs hein, qui nous ont blessés. Et je voulais qu'on fasse un peu le point aujourd'hui de celles qui étaient les plus handicapantes dans une vie harmonieuse, amoureuse. Chablis, c'est quoi alors ?
C'est les blessures d'amour, bonjour. Les deux blessures, la blessure de l'abandon et la blessure du rejet, qui sont des blessures liées à la relation avec nos parents, donc à l'amour que nous avons ou pas reçu, c'est celles-là qui vont impacter le plus notre évolution. Les autres sont des blessures de comportement dans la vie. Mais celles-là, les deux premières, sont vraiment des blessures affectives. Et l'amour, c'est la base.
Oui, alors que la blessure, par exemple, de manque de confiance va moins impacter la vie amoureuse parce que finalement, la confiance, on en a besoin plus, par exemple, dans la vie professionnelle.
Oui, elle va impacter
tout, bien sûr.
Elle va se répandre parce que c'est une énergie qui n'est pas présente, la confiance. Donc celle-là est à prendre en compte aussi, bien sûr. Mais dans les relations, ça va d'abord être la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet.
Mais alors ça me fait penser à ce qu'on appelle la sécurité affective. On dit souvent que lorsqu'on a eu une sécurité affective suffisamment bonne, en règle générale, on s'en sort dans sa vie amoureuse. Et donc ces deux blessures-là, au fond, elles entravent la sécurité affective, ce qu'on appelle la sécurité affective en en psychologie.
Oui, mais au stade de l'enfant, comment ça se traduit? Ça se traduit par « est-ce que je ressens que papa ou maman m'aime inconditionnellement ?» Ça ne va pas plus loin. C'est un ressenti qui ensuite va s'intellectualiser. Mais au début, c'est un enfant qui ressent. Et l'enfant ne fait que ressentir, il n'analyse pas. Il a, après 5-6 ans, il va commencer à analyser, mais avant, il ne fait que ressentir.
Et donc, il ressent qu'on le rejette, en quelque sorte.
Il ressent un rejet ou un abandon.
Oui, ce qui est un peu la même chose, rejet, abandon. Et alors, puisqu'on parle beaucoup du corps avec Michel Odoul, comment ça se traduit dans le corps, les personnes qui ont eu cette blessure, cette cicatrice, pour utiliser votre expression de rejet ou d'abandon, ça se traduit?
Le rejet et l'abandon, c'est très visible. Surtout le rejet, c'est un corps qui ne grandit pas, qui n'évolue pas, qui ne prend pas sa place, en quelque sorte, parce qu'on ne lui a pas donné sa place. Mm-hmm. Ça, c'est très fort.
Donc
pour
les
le
épaules
rejet.
Un peu tombantes.
Les épaules tombantes, des parties de corps qui semblent encore enfantins. Par exemple, des bras petits, une harmonie qui ne se fait pas. C'est très lié à l'abandon et c'est très lié aussi au rejet.
Michel Odoul, ça vous parle?
Ah oui, oui, mais c'est tout à fait ça. C'est comme l'eau pour une plante. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un manque, la croissance ne se fait pas correctement. Ou alors, ça se traduit aussi par des processus biologiques dans lesquels le système global, c'est de la rétractation. Face à toute situation, etc., il y a une rétractation de soi. Donc, sur le plan du cardiovasculaire, ça va être une vasoconstriction un peu forte, ça va être une difficulté à faire monter de la pression en soi, ça va être une difficulté à se mettre en avant, ça va être une difficulté à ouvrir le champ respiratoire. Donc, on va avoir effectivement tout un tas de modes physiques pour exprimer ça. Et puis arrive la phase, qui est souvent vers la phase adolescente, le moment où le jeune essaye de dépasser cela et d'aller donc dans la lutte et dans la surexpression dans le sens inverse. Dans le rôle du matamor, dans le rôle de la surexposition de soi, pour essayer de trouver un autre vecteur de compensation de ce manque qu'on a eu et d'aller provoquer peut-être un peu ce que le monde extérieur à ce moment-là va nous donner comme compensation du manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes, puisque nous pensons, un petit enfant, effectivement, n'est pas en capacité de juger ce que les adultes, donc ses parents, pensent ou font.
Ils ne peuvent
pas se tromper. Si on le rejette et qu'on ne l'aime pas, c'est qu'il n'est pas aimable. Et donc, il va y avoir un défaut d'image, un défaut de connaissance de soi. Et il y a dans les processus de la médecine chinoise, donc des processus d'étapes, justement, à travers des besoins qui sont des besoins fondamentaux, il y a des besoins archaïques. Ceux-ci font partie des besoins archaïques, fondamentaux et viscéraux. Et puis ensuite, il y a d'autres types de besoins qui se construisent, mais ils vont toujours se construire sur ces racines-là. Mmh. Et si ces racines-là sont un peu dégradées, on manque de solidité ou de stabilité, bien entendu, chaque échec ou difficulté qui va être vécu va être dévastatrice. C'est-à-dire qu'elle va venir nourrir, en fait, la carence.
Mmh. Oui.
Alors, quand on rencontre un partenaire ou une partenaire donc, qui a cette cicatrice de rejet ou d'abandon, à quoi on le repère, Chabi Langlois?
Le rejet, c'est une personne qui sera fuyante, qui va aimer la solitude.
Qui a du mal à s'engager, donc.
Qui a du mal à s'engager. Et qui va sans arrêt essayer de répondre à vos propres besoins pour se faire accepter. Mmh. Et oublier, bien sûr, de répondre à ses propres besoins à elle. Mmh. L'abandon, ça va être tout à fait le contraire. C'est une personne qui cherche à s'accrocher pour se faire aimer, qui va créer des liens de dépendance avec vous.
Mmh. Et alors, quand on a les deux, ça doit...
C'est casse-pied.
C'est un vrai lierre qui s'accroche de partout.
Oui, oui, c'est difficile.
C'est difficile,
oui. Ah oui, quand on a les deux, mon premier conseil, c'est de se faire conseiller, de se faire aider par un psychothérapeute, parce que c'est lourd. Parce que c'est lourd, et puis il n'y a pas que les deux dans ce cas-là. Il y a généralement, comme vous venez de le dire, d'autres à la maturité vont évoluer.
De trahison, etc. Annie, est-ce que ça vous parle? J'ai l'impression que vous devez vous reconnaître un petit peu dans tout ça. Bonjour Annie.
Oui, bonjour. J'ai un peu de mal avec ces prénoms, parce que je disais Monsieur Chabi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Chabi. Bonjour,
oui.
Chabi.
Comme un bonjour. Chat, comme un chat.
Oui.
Mais qui est bisexuel, voilà.
Par exemple.
moi, je suis ravie que vous me proposiez d'intervenir. Effectivement, j'ai 61 ans.
Oui.
J'ai eu une enfance très, très, très difficile avec une maman qui est décédée quand j'avais 9 ans. Nous étions 4 enfants, c'était la plus jeune. Et il y avait dans cette famille des règlements de compte terribles. Et mon père m'a battu, humilié, tabassé, séquestré. Enfin, ça a été... voilà. Et souvent, je me suis demandé comment j'avais pu... je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps. Hein, comment j'avais pu, en quelque
sorte...
me construire malgré tout, survivre à tout ça, et être comme je suis aujourd'hui, pleine d'énergie, bouffer la vie à pleines
dents.
Et alors,
ça a été quoi, votre résilience?
Ben, en fait, non, ma résilience, c'est pas ça, c'est que
Votre tuteur, alors, si vous préférez, c'était quoi votre tuteur pour arriver à survivre à tout ça?
Alors, mes tuteurs, c'était mes grands-parents maternels qui m'ont apporté énormément d'amour. Mmh. Voilà, et ça, je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Je n'ai jamais répété, j'ai eu 4 enfants, je n'ai jamais répété le schéma que j'ai vécu avec mon père. Alors souvent, je me dis, mais comment ai-je fait? En fait, la réponse, je l'aurais jamais, si ce n'est que j'ai eu la chance de rencontrer toute ma vie des gens merveilleux. J'ai été mise en pension, bon, ça, il fallait m'éloigner de mon père, mais...
Et votre mari dans tout ça?
Alors, ça, je préfère en parler un peu après.
D'accord.
J'ai d'abord résumé mon père. J'ai essayé de bien résumer. Mmh. Je suis partie en pension à l'âge de 11 ans. Et mmh. ça m'a énormément aidée parce que la semaine, j'étais tranquille. Voilà. Et le week-end, je rentrais, mon père me disait, tu poses ton cartable, je vais parler comme il parlait, hein. Je m'en fous de tes devoirs, ici il faut faire le ménage, le repassage, le jardinage, nettoyer ma voiture, qu'elle soit nickel chrome. Autant vous dire que le dimanche soir, j'étais dans un état de fatigue terrible, et je repartais avec beaucoup de bonheur à la pension. Et les 2 premières heures de cours, le lundi matin, parce que tout le monde savait, mais à l'époque, personne n'osait rien dire. Je dormais 2 heures sur ma table pour me remettre de mon week-end. Et mais je dois quand même dire, de tout ça, il faut être honnête. Hein. Je crois que c'est mon honnêteté qui m'a sauvée, mon authenticité. C'est que, je le dis encore souvent, mon père m'a beaucoup fait souffrir. C'était une façon pour lui de m'aimer. Mais il m'a appris énormément de choses. Et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse à tout. Je jardine, je suis capable de faire du béton, de poser du carrelage. Aucun domaine ne me fait peur. Voilà.
Et oui, c'est fort. Mais vous avez sûrement aussi derrière une blessure de l'humiliation importante. Est-ce que vous y avez réfléchi à cette blessure?
Non, je n'ai pas réfléchi. Je vais vous dire, quand mon père est décédé il y a 25 ans... Mmh. Je suis allée le voir à l'époque, il n'y avait pas de funérarium, hein. Je suis allée le voir, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais réponds-moi, est-ce que c'est bien toi qui es là? Est-ce que tout ça est signe? Bon, voilà, ce qui paraît un peu absurde parce que la mort ne peut pas répondre, mais je pense que quand même, quelque part, on peut communiquer d'une façon ou d'une autre, voilà. Et quand on l'a enterré, j'étais devant sa tombe et je dis, voilà, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait, parce que il n'y a que comme ça que je pourrais continuer à m'épanouir et à vivre tranquille. Voilà.
Oui, c'est une bonne chose, le pardon. Mmh. Mais attention, ne pas pardonner trop vite. Avant le pardon, il y a l'accusation qui est importante. Si vous oubliez d'accuser vraiment d'une façon très précise votre père, vous leur donnerez un pardon qui n'est pas un pardon construit.
Non, mais je l'ai accusé pendant 20 ans.
Bon, pas tant mieux.
Parce qu'il m'appelait... c'est pas très poli ce que je vais dire, mais moi je veux rester authentique, donc est-ce que vous me permettez de prononcer les mots que je prononçais à l'époque?
Oui.
Il me téléphonait 50 fois par jour, je disais, écoute, tu m'emmerdes, j'en ai ras-le-bol, arrête, ça suffit... Et il me disait, je suis le roi. Je lui disais, mais t'es le roi de quoi? Le roi des imbéciles, le roi des emmerdeurs, excusez-moi, parce que je voudrais écrire un livre, d'ailleurs, ce serait le titre, si j'arrivais à l'écrire, où t'es le roi des cons, tu es quoi?
Mais est-ce que, Annie, est-ce que c'est surtout vous qui subissiez cette maltraitance?
Oui. Oui, parce qu'en fait...
Alors, je crois qu'il y a quand même une chose importante que je voudrais vous dire, Annie, c'est que d'une certaine manière, en tant qu'enfant, hein, je ne dis pas du tout que c'est votre croyance d'adulte, mais votre croyance d'enfant, c'est que quelque part, vous étiez la préférée de votre père, et ça a justifié ou excusé, et ce serait encore pire si ça est excusé, cette maltraitance. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut analyser et dépasser, parce que ça n'a pas de sens, hein.
Ah mais moi, je l'ai complètement dépassé, tout ça. Hein. Je je pense que sa haine et sa violence étaient une façon de m'aimer. D'ailleurs, souvent, il me disait « je t'aime ». C'est vrai, tu m'aimes, enfin bon, c'est pas la peine de...
Mais c'est ça l'humiliation. L'humiliation, ça rend masochiste. Et le masochisme, c'est ça, c'est « tape-moi, papa, pour que... je sais que tu m'aimes quand tu me tapes ». On en est là. Et c'est ça qui est la partie malade, justement, de votre relation avec votre père. Et c'est important.
Et je trouve, oui, c'est important parce que pour moi, vous ne l'avez pas encore complètement élaboré parce qu'il y a une certaine jouissance à le raconter, Annie.
Oui. Et qui dit... Non, je ne joue pas du tout, je le raconte tout simplement en toute sincérité.
Oui, j'entends bien. Mais attendez, Annie, je ne suis pas en train de dire que vous ne le dites pas avec une vérité profonde. Je l'entends, cette vérité profonde. Mais il y a quand même quelque chose de complaisant dans ce que vous dites par rapport à votre père. Et ça, il y a aucune raison d'être complaisante.
C'est de la maltraitance.
Exactement, et de la vraie maltraitance, et de la maltraitance importante. Donc, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir à un moment donné un peu plus analyser, parce que je pense que ça va vous libérer, et ça va vous rendre encore plus généreuse, encore plus forte et meilleure ce que vous êtes déjà, de toute façon.
Comment j'ai fait ? Je suis complètement libérée de tout ça. Voilà. Mes frères et sœurs, non. Hein. Mais moi, je suis complètement libérée de tout ça. Je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Aucun. D'ailleurs, bon, après, je me suis mariée. J'ai eu 4 enfants. Je dirais, entre guillemets, j'ai malheureusement épousé un homme qui était peu dynamique, fuyant, qui ne se gâtait pas.
Oui, bien sûr, mais c'est normal. On ne pouvait pas imaginer que vous épousiez un homme formidable avec un modèle de père pareil. En tout cas, merci Annie d'avoir réagi. On voit bien, hein, Chabi Langlois, comment c'est pas si simple que ça de dépasser cette cicatrice.
Non.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. et je conseille évidemment votre livre. N'hésitez pas à vous procurer le livre de Chabi Langlois. C'est aux éditions Très Daniel, bien sûr. Merci en tout cas. On se retrouve dans un instant, mais tout de suite, on va donner la parole à notre gagnante, puisqu'elle est là. Armelle, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Chabi.
Et Michel Oudoul, qui est avec nous également. Et vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, et vous avez gagné donc ces 4 passes pour le parc Spirou-Provence à Monteux, près d'Avignon. Donc vous pourrez y aller avec votre partenaire et 2 enfants, enfin bon, avec 3 autres personnes en tout cas. Et vous profiterez en famille de sensations tout à fait extrêmes. Il y a vraiment des attractions tout à fait sympathiques, notamment le nid des marsupilamis. Pilamis. Et oui, c'est une exclusivité mondiale dans ce parc Spirou Provence. Je souris parce que c'est Michel Oudoul qui me fait sourire. Mais ça reste des private jokes. Et puis vous pourrez également liker la page Facebook de Sud Radio pour peut-être gagner des passes pour le parc Spirou Provence. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous avez envie de nous parler de votre corps qui vous parle? Eh bien, c'est sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. On est avec Michel Oudoul aujourd'hui, auteur de ce livre aux éditions Albin Michel. Et Adeline nous a appelé sur Sud Radio. Bonjour Adeline.
Bonjour Brigitte.
Donc vous avez mal au cervical et à la cheville droite. Bah dites donc.
C'est bien ça.
Il y a peut-être un méridien qui passe par là, je ne sais pas moi.
Oh, il y en a plein.
Racontez-nous Adeline, on vous écoute.
Ça m'est de passe, il y en a plein. Bah, ça fait 6 mois maintenant que je suis tombée en montant dans ma voiture, en fait, je suis tombée et je me suis fait très mal donc à la cheville droite. J'ai eu une grosse entorse qui a mis 3 mois à guérir. Et depuis que je me suis remise, entre guillemets, ça va quand même beaucoup mieux. Et là, depuis quelques mois, ça recommence. J'ai très très mal à la cheville et maintenant, c'est la cervicale en plus qui ne va pas. Du coup, comme c'est tous les deux du côté droit, je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose. Donc, je viens vers vous pour en savoir plus.
Mais vous avez bien raison, Adeline.
Alors, très globalement, dans le corps, la latéralité droite est plutôt en lien symbolique avec la symbolique maternelle, avec l'image du féminin et de la féminité, avec ce qu'on appelle le yin en énergétique. Ensuite, il y a deux zones corporelles qui s'expriment clairement chez vous. C'est un, la cheville, et deux, les cervicales. Alors la cheville, bien, c'est une articulation très très particulière qui permet de donner la mobilité aux pieds et qui est l'articulation qui nous permet très globalement de bouger, de nous déplacer correctement dans l'espace. C'est aussi ce que dans le langage courant on appelle avoir de la difficulté à savoir sur quel pied danser, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de positionnement. Et il y a une problématique de positionnement par rapport à quelque chose de féminin. Alors peut-être que cette entorse a émergé dans votre vie à un moment donné où vous aviez le besoin de prendre une position ou de vous positionner officiellement de façon visible vis-à-vis de quelque chose de féminin, que ce soit votre propre féminité, que ce soit votre mère, que ce soit votre propre rôle de mère, ou éventuellement vis-à-vis d'un féminin plus sociétal qui s'appelle l'entreprise. Ouais. C'était sur l'entorse, c'était sur la face interne de la cheville ou face externe ?
La face interne.
C'était sur la face interne. Donc c'était en plus sur des fondamentaux, hein, parce que là on a des méridiens d'acupuncture très précis qui sont les reins, le foie et la rate pancréas qui passent là, et qui sont les énergies des positionnements fondamentaux de l'être, qui sont à la fois les éléments qui répondent à la question ou à des interrogations existentielles de type « qui suis-je ?» et « quelles sont mes racines ?» Donc peut-être que vous étiez dans une phase où vous étiez en train de vivre quelque chose sur lequel il y avait des chamboulements ou des changements qui arrivaient. Et la deuxième des choses... Pardon ?
Pour le coup, complètement.
Ouais. Et la deuxième des choses par rapport aux cervicales, c'est que les cervicales, c'est ce qui se situe entre la tête, c'est-à-dire le conceptuel, et les épaules et les bras, ce qui permet de faire passer dans le réel. Et donc les tensions au niveau cervical sont souvent la signature que nous nous mettons des interdits à exprimer ou à faire passer quelque chose dans le réel, des choses que nous aurions envie de dire, de faire ou d'agir, et que nous pensons ne pas pouvoir, ne pas avoir le droit, ne pas mériter ou ne pas être à la hauteur de faire.
J'écris en même temps ce que vous me dites.
Vous savez que vous pouvez réécouter en podcast, hein, Adeline, ce sera tout aussi possible. Non, mais je crois que
oui,
c'est...
ce sera plus simple.
Oui, bien sûr. En tout cas, c'est simple Enfin, pour moi, ça me paraît assez limpide. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, posez-vous et puis voyez comment vous pouvez aller de l'avant en vous affirmant.
C'est que depuis mon inscription au CAP Petite Enfance que je me suis fait mal à la cheville. Et là, je dois refaire d'autres stages et travailler d'autres livres. Ça fait beaucoup de choses en même temps.
Qui est-ce qui s'occupe des petits-enfants ?
Mes enfants, c'est moi.
Oui, oui, mais c'est en général,
s'occupe des petits-enfants ?
Symboliquement, qui est-ce qui...
Ah, la maman.
Voilà. Est-ce que vous autorisez au fond de vous-même à être une bonne maman, vous voyez, à être maternante vis-à-vis de ses petits-enfants. Je crois qu'il y a quelque chose à analyser par rapport à ça. Hein. Je ne dis absolument pas que vous n'en êtes pas capable, moi. Oui. Je dis juste qu'il y a en vous une part de vous-même qui peut-être vous bloque un peu et il faut prendre de l'assurance par rapport à ça.
Que dit votre entourage de ce changement de vie que vous envisagez ?
C'est surtout justement ma maman qui me dit qu'il faudrait mieux pas que je le fasse.
Ah, comme c'est curieux.
C'est ça. Tu sais, une fois qu'on prend un petit peu de recul, on voit plein de choses.
Ben oui, c'est le but du recul d'ailleurs, vous savez ça.
Et oui. Mais justement, c'est avec vous que j'avais besoin de faire ce recul. J'ai allumé la radio tout à l'heure, je suis montée en voiture, j'ai entendu votre émission, je me dis, oh, il faut que j'appelle.
Ben vous avez bien fait.
C'était un signe, il fallait que j'appelle.
Et Michel Oudoul est là pour ça, il allume la lumière. Hein. Après, comme c'est je ça. Dis toujours, c'est quand même à vous de ranger votre bordel. Mais au moins, il allume la lumière et donc à ce moment-là, vous pouvez ranger. Ben oui, je ne sais pas quel âge vous avez, Adeline, mais il est temps d'être votre propre maître.
Hein. J'ai 28 ans, effectivement, oui.
Ah, c'est intéressant ça, 28 ans, Michel Oudoul. Hein.
Bah, Saturne, sacré Saturne.
Et oui.
Saturne
Saturne était un dieu qui mangeait ses propres enfants.
Plutôt que de les laisser s'épanouir et devenir adulte. Voilà.
Faites attention à ce qu'en vous, des choses ne soient pas en train de dévorer l'enfant en vous qui est en train de grandir. Donnez-vous le droit. Donnez-vous le droit.
Le droit.
C'est ça. De travailler sur tout ça.
Voilà.
À mon avis, vous êtes bien partie, Adeline. Vous avez eu raison de nous appeler. Merci en tout cas. Mmh. Merci beaucoup
à vous.
On continue après les infos, bien sûr. Si vous aussi, vous voulez une petite lumière qui s'allume en vous, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. La petite devinette du jour, comment on surnomme la verge des Portugais ? Elle est assez facile, celle-là. Et vous aurez la réponse, bien sûr, après les infos. La verge des Portugais, comment ça s'appelle ?
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Michel Audoux, le fondateur de l'Institut français de Tchiatsu en France. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur le Tchiatsu et notamment « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec vous. Vous avez une douleur qui arrive comme par hasard à tel moment de votre vie. Le hasard, c'est le nom, comme disait Einstein, qu'on a trouvé pour expliquer ce qui ne s'explique pas, hein, en quelque sorte.
Oui, il disait, c'est le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse.
C'est ça, oui. C'est joli. Alors, la verge des Portugais, comment ça s'appelle?
je suis totalement incompétent.
C'est facile quand même, c'est une péniche. Une péniche.
Oh, d'accord.
Mais oui.
Bravo.
Allez, on continue avec Valérie qui est avec nous. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci.
Bonjour à tous les deux.
Merci
bonjour.
D'être avec nous Valérie. Alors, vous avez une douleur au pied droit, décidément, le droit l'emporte aujourd'hui.
C'est vrai. Oui, effectivement, j'ai mal au pied. Je courais, j'ai longuement couru et j'utilise des chaussures peut-être un peu trop petites de sport. Et du coup, ça m'a créé un micro-traumatisme. Mmh. Qui s'est réveillé, mais qui était latent, qui s'est réveillé, donc je ne pouvais plus mettre de talons, au grand dam de mon compagnon. Et en fait, je suis tombée dans un escalier, j'ai loupé quelques marches il y a un an, à peu près au mois de juillet. Ça a réveillé cette douleur d'arthrose, et j'arrive pas à me séparer, à me quitter de cette douleur, en fait. Donc c'est un peu compliqué, donc je vais voir des podologues, tout ça, et c'est un peu compliqué.
Mais j'ai juste une question à vous poser éventuellement, c'est parce que votre chaussure droite était plus petite que la gauche alors?
J'ai un pied droit un peu plus grand que la gauche.
Un peu plus fort, oui.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Et j'ai mon deuxième orteil qui est un petit peu plus long en fait.
À droite?
À droite comme à gauche.
Oui. Il y a déjà un structurel qui dans le rapport au féminin est un petit peu plus fort que le côté gauche.
Les deux doigts de pied, on va dire le deuxième doigt de pied après le gros orteil, qui est un peu plus long,
oui.
Des deux côtés.
Mmh. Des deux côtés, donc il n'y a pas de raison.
Alors, je ne sais pas si c'est égyptien ou je ne sais plus comment, ou c'est grec, je ne sais plus, mais
grec oui.
Voilà. Mmh. Et donc, du coup, ça peut être effectivement accentué cette.
Oui, mais ce que souligne Michel Audoul, c'est que c'est pareil du pied droit et du pied gauche, et c'est le pied droit qui vous fait mal. Donc, c'est là où il y a déjà quelque chose qui est à interpréter, encore une fois.
Tout à fait.
Voilà, on avait, sur le plan de la mécanique pure, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir un ostéopathe, parce que lorsque le pied fait mal, c'est pas obligatoirement le pied qui est responsable, et c'est peut-être quelque chose qui vient d'un décalage au niveau de la hanche, un décalage sacro-iliac, qui fait que du fait de cette légère bascule de la hanche, votre jambe et votre pied ne se posent pas de la même façon au sol. Et c'est pour ça que petit à petit, le pied se met à devenir douloureux, on déclenche une tendinite, etc. Quand en plus de ça, vous avez des circonstanciels dans lesquels des faits accidentels viennent rajouter à la douleur dans cette zone-là, il y a sans doute quand même véritablement à s'interroger sur ce que ce côté droit de votre corps, et notamment du pied, c'est-à-dire de nos positionnements de vie, vient nous dire. Et à propos de ce qui est en lien avec le côté droit, c'est-à-dire plutôt du féminin. Donc, contextuel.
Oui. Pardon, côté ostéopathe, je suis allée voir, en fait, là, dernièrement, j'ai fait une radio, ils ont fait un Morton, ils ont vu un certain nombre de problématiques mécaniques. Donc, j'ai eu un podologue qui m'a prescrit, en fait, de me faire opérer avec un arrêt de 3 mois de ça. Donc, j'essaie de partir sur des choses un petit peu plus douces.
Oui,
vous avez donc, raison. Encore une fois, on peut toujours arriver au moment de l'opération et se faire opérer, mais tant qu'à faire, c'est ce qu'on conseille toujours, c'est essayer le plus possible d'éviter une opération. Bon, après, quand il n'y a pas d'autres solutions, il faut se faire opérer. Mmh. Mais là, pour l'instant, peut-être qu'il y a des investigations à faire avant.
Effectivement, oui, tout à fait.
Allez voir un praticien shiatsu, allez voir quelqu'un qui va vous permettre de faire un travail qui va aller au-delà du pied, qui va travailler sur tout le positionnement de la jambe, sur le bassin, voire éventuellement même sur les lombaires, et éventuellement même à l'extrême, au niveau de la première vertèbre cervicale, qui a peut-être... il faudrait que vous regardiez, par exemple, vous pouvez faire l'expérience vous-même, vous vous mettez devant une glace et vous vous regardez... Quand vous vous tenez droite dans la glace, vous allez voir si vous avez la tête qui est très très légèrement inclinée sur le côté droit, il y a sans doute quelque chose qui est en lien avec cette première vertèbre cervicale.
D'accord.
Donc tout le rachis, toute la colonne vertébrale peut être à l'origine de cette problématique de pied. La deuxième des choses, c'est effectivement sur ce qu'est le sens et la symbolique qui est associée à ça. Voilà, quelles sont les difficultés ou les tensions de votre positionnement en tant que femme dans votre vie, que ce soit par rapport à du professionnel ou que ce soit par rapport à du personnel. Y a-t-il quelque chose que vous cherchez à maîtriser, sur lequel vous cherchez à mettre des choses en place ou à vous positionner, et avec lequel les choses ne se font pas facilement?
Et puis, il y a aussi, ça vous parle visiblement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Bon. Et puis, il y a aussi une chose peut-être à essayer de comprendre. Au moment de la chute, qu'est-ce qui s'était passé les quelques jours avant?
C'est circonstanciel, même, voilà.
Voilà, parce que la chute, elle arrive, bien sûr, tout à fait par hasard, hein, on est d'accord. Sauf que quand on y réfléchit bien, il y a souvent un petit événement, une petite contrariété, enfin, des choses qui laissent à penser qu'elle arrive justement à ce moment-là, à la chute.
Y avait eu une très grosse contrariété, effectivement, ouais, quelques temps avant.
Bon, donc cette contrariété, c'est intéressant de voir ce qu'elle a produit en vous. Qu'est-ce qu'elle a bloqué en vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas su dépasser et que le corps, à ce moment-là, chute parce que c'est trop fort pour arriver à le dépasser?
J'y suis, doucement. Je suis en train d'essayer de guérir des choses.
Bon, bah c'est ces petites choses que vous allez mettre bout à bout et qui vont vous permettre, pas de tout d'un coup, par miracle, de guérir, hein, mais en tout cas de pouvoir, grâce à l'aide peut-être d'un praticien shiatsu ou d'un ostéopathe, rééquilibrer votre corps parce que votre esprit sera rééquilibré.
D'autant plus que quand l'esprit est en tension, des zones corporelles en résonance avec la tension se manifestent dans le corps. Hein. Nous savons très bien, quand nous avons et nous sommes dans une situation de stress, eh bien, nous avons un certain nombre de zones, notamment les muscles dorsaux, qui se mettent en tension. Donc, le fait d'associer au travail mécanique et à la prise en compte de ce que votre pied est en train de vous dire, avec les vécus qui lui sont associables, et surtout de dépasser la tension émotionnelle de ces vécus, ne peut que faire que la situation s'améliore.
Oui, donc j'essaie de plus avancer dans ce sens-là que de prévoir cette opération qui me semble un peu
brutale. Qu'est-ce qu'on a objectivé au niveau de votre pied pour parler d'une observation?
Une arthrose avérée du gros orteil, en fait, sur le côté, là.
Un hallux valgus?
Oui, tout à fait, avec effectivement un Morton du fait de cette chute et qui écarte, en fait, il y a un petit kyste qui s'est mis entre le deuxième et le troisième orteil et qui écarte. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a la première phalange de ce deuxième pied a tendance à devenir un peu comme une griffe, si vous voulez, et que j'ai pas du tout sur aucun autre doigt de pied.
Et, il y a une rétractation au niveau tendon. Alors, on utilise et on conseille souvent aussi des choses extrêmement basiques et simples, comme par exemple des emplâtres d'argile verte que vous pouvez vous faire le soir, une demi-heure chaque soir. Hein, que vous achetez ça, vous trouvez ça en pharmacie, vous trouvez ça en boutique de diététique, et ce sont des choses qui aident énormément à la fois à désenflammer, à détendre sur le plan tendon et à calmer l'état inflammatoire. Et puis ensuite, aller voir un praticien, effectivement, de façon à ce qu'il vous fasse le bilan.
Parce que je fais du Qigong, mais je vois bien que c'est pas suffisant, quoi. Je vois bien que ça réactive, mais ça suffit pas, quoi.
Ben, ça agit au niveau global. C'est-à-dire, dans le Qigong, vous allez faire un travail de rééquilibrage global des énergies. En même temps, s'il y a une tension émotionnelle qui est présente, c'est pas le Qigong qui va vous la faire partir comme ça, sauf à travailler spécifiquement dessus.
Oui, c'est-à-dire que c'est bien le Qigong parce que vous remettez, j'allais dire, le corps dans le bon sens, mais comme la tension émotionnelle est toujours pas analysée, dépassée et élaborée, ça recoince. Donc c'est pour ça que vous avez eu raison d'appeler. Je pense que j'ai bien compris qu'il y a des choses qui font sens en vous. Donc maintenant, c'est à vous de continuer à avancer.
Et je lis ce livre avec beaucoup de... Le dernier livre que vous avez écrit, je lis avec beaucoup de comment on dit d'interrogation quand je commence, et ensuite, où il y a pas mal de choses aussi qui me parlent bien, quoi, en fait.
Oui, bah écoutez, bien, merci.
Bien sûr, c'est fait pour ça. Et
ouais. Mais encore,
bah je vous en prie, Valérie. Mais encore une fois, je vous le dis à vous et puis je le dis à tous ceux qui nous écoutent. On a tous des moments où on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est pas encore le moment, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe.
Il y a un déclic qui se fait, voilà. Voilà.
C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence sur soi-même, mais il ne faut pas avoir trop de complaisance quand même. Voilà. Mm-hmm. Mais je crois que vous avez, enfin il me semble que vous avez compris deux, trois choses et c'est formidable. Merci Valérie.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Longue vie à cette émission et à vous.
Merci.
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 Dans un instant, notre sexy news, on va retrouver Ambre qui va nous parler des paraphilies. À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Alors Michel Ledoux, on retrouve Ambre, notre Sexy News. Et Ambre, vous allez nous faire le tour des paraphilies. Paraphilie qui est un terme qu'on utilise maintenant en sexologie et qui remplace le terme un petit peu trop dur de perversion.
Oui, c'est ça. Bonjour Michel.
Bonjour.
J'aurais tellement voulu vous parler du sujet du jour et de vous parler de ma sciatique du bras. J'ai appris des choses en écoutant l'émission en avant-première.
Allez-y, Ambre, profitez de la présence de Michel Audou. De toute façon, vous avez toujours mal quelque part. Depuis que je vous connais, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on se connaît, Ambre.
C'est ça.
Je ne vous ai jamais connu sans avoir mal quelque part.
Oui, la sciatique du bras en ce moment, c'est ça. Le bras droit, le côté féminin. Bon, c'est mes cervicales qui me perturbent. Non, en fait, je vais vous parler des paraphilies, Michel et Brigitte.
Alors, vous voulez que Michel Audoul vous dise quelque chose ou vous voulez pas...
Allez en deux mots, mais après, je ne vais pas avoir le temps de finir ma chronique.
Merci.
Alors, on va expliquer quand même que déjà, la sciatique du bras, c'est ce qu'on appelle des névralgies cervico-brachiales.
Oui, c'est ça.
Et qu'effectivement, il y a sans doute manifestement quelque chose que vous vous retenez ou vous vous empêchez ou vous interdisez de faire, et qui est en lien avec cette dimension féminine ou symbolique maternelle. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire symbolique maternelle. Ça peut être la mère réelle telle qu'elle est la nôtre, éventuellement, mais c'est aussi la mère symbolique, ou tout ce qui est en lien avec le féminin et la féminité. Donc, ce qui est en lien avec le féminin et la féminité, c'est bien sûr, c'est la femme, c'est la femelle, c'est etc. Mais c'est également tout ce qui est en lien avec la sensibilité, l'émotion, la créativité, la capacité à l'accueil, l'ouverture à l'autre, la capacité à la réception des choses et à la douceur dans le rapport à la vie et au vivant. Donc on a donc un terrain qui est assez vaste. En tout cas, manifestement, il y a quelque chose que vous avez du mal à mettre en place, que vous avez du mal à tenir, ou sur lequel, à l'inverse, vous vous sentez contrainte à tenir, à faire et à agir.
Mais c'est vrai, Brigitte, je suis sûre qu'elle sourit là.
Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne vois absolument pas de quoi veut parler Michel Audoul.
Je suis sûre qu'elle a souri. Bon, allez, on ferme la parenthèse. Merci infiniment, Michel. Merci. Je veux parler de paraphilie. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les paraphilies, la perversion sexuelle, on en parle rarement parce que voilà, on cache un petit peu les choses. Avant d'en parler, avant de le développer, j'ai un message hyper important à donner. Je voudrais dire que personne n'est responsable de ses fantasmes et que aucun fantasme n'est puni par la loi. C'est ce que je dis à des patients.
Oui, c'est le passage à l'acte qui sera puni éventuellement, voilà. Mais pas le fantasme en lui-même.
C'est ça. En revanche, chaque individu est responsable de ses actes et on est bien d'accord.
Alors, je voudrais quand même préciser, Ambre, excusez-moi, mais c'est important dans une émission grand public, je voudrais quand même préciser que lorsqu'on a un fantasme, par exemple un fantasme de pédophilie, hein, c'est-à-dire qu'on fantasme de faire l'amour avec des petites filles ou des petits garçons, c'est bien quand même d'aller voir un bon thérapeute pour justement calmer son fantasme afin qu'il n'y ait pas de passage à l'acte.
Oui, tout à fait. De toute façon, je vais en parler. Je voulais rajouter aussi que la majorité des personnes qui présentent des fantasmes paraphiliques ne passera jamais à l'acte. Et tout acte sexuel pouvant être considéré comme déviant n'est pas nécessairement causé par une paraphilie. Et on peut parler, par exemple, quelque chose qui peut être considéré comme déviant. Je sais pas, vous me contredirez pas, Brigitte, c'est peut-être l'ondinisme. J'avais fait un sujet à ce sujet. Ça vient pas de la paraphilie, l'ondinisme. Voilà, aimer recevoir l'urine de sa partenaire ou de son partenaire, ça ne vient pas d'une paraphilie.
Ça dépend des sexologues. Et c'est là où le terme, encore une fois, paraphilie, il est très compliqué parce qu'il y a des sexologues qui considèrent considère que l'audinisme, qui consiste donc à aimer avoir de l'urine sur soi ou aimer voir une femme ou un homme uriner, ça, pour certains sexothérapeutes, c'est considéré comme une paraphilie, pas pour d'autres. Après, ça dépend encore une fois de l'éthique de chacun. Moi, j'ai tendance à être assez indulgente, comme vous, Ambre. Oui. Je considère que quand c'est entre deux adultes consentants, on n'a pas à y mettre le mot de paraphilie, mais bon, c'est ma définition.
Hein. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Alors, pourquoi paraphilie ? Parce que, étymologiquement, para, ça veut dire à côté de, et philos, ça veut dire l'amour. Donc, para, à côté de l'amour, on est dans quelque chose de déviant, dans quelque chose qui n'est pas dans la normalité. Et on a des objets de fantasme qui peuvent être des enfants, effectivement, vous en avez parlé, ou des objets inanimés. Et dans les objectifs aussi, c'est-à-dire, par exemple, entraîner de la souffrance d'autrui, là, on est dans le contexte paraphilique. Donc, il faut qu'il y ait aussi un caractère répétitif, et ça, c'est important. Donc, une personne présente une paraphilie lorsqu'elle a des fantasmes qui entraînent une excitation sexuelle très intense et très récurrente, avec des pulsions sexuelles, mais parfois pas, et des comportements, et parfois pas non plus, qui impliquent une activité sexuelle paraphilique pendant au moins 6 mois. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la 5e version, et ça c'est quelque chose de très important, c'est scientifique, c'est un peu la bible de tous les psychiatres, c'est reconnu mondialement, il recense 8 paraphilies qui sont les plus importantes et qui sont les plus représentées, et pour elles, les plus dangereuses. Enfin, il y en a 2 qui sont pas dangereuses, vous verrez, mais voilà, il y en a 6 qui sont judiciables et qui peuvent relever de la criminalité. Donc, il faut savoir aussi que parfois, comme vous l'avez dit, on peut avoir des fantasmes sur des enfants ou sur des animaux, et puis ça génère une détresse chez la personne, et quand ça génère une détresse, elle ne va pas forcément passer à l'acte, mais effectivement, il ne faut pas hésiter à aller consulter un psychiatre, un psychologue, et il faut savoir qu'il y a des centres qui s'intéressent aussi plus près aux intervenants, enfin aux auteurs de violences sexuelles. Donc le centre, ça s'appelle la Fédération Française des CERS, C-R-I-A-V-S, c'est le centre ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc ces 8 paraphilies, c'est quoi ? Alors bien évidemment, la pédophilie. C'est se sentir attiré sexuellement par un enfant. Quand je dis un enfant, c'est un être vivant qui n'a pas eu sa puberté. Et il faut savoir aussi, et c'est important de dire, qu'un adolescent peut être pédophile, puisque c'est peut-être un adolescent qui, lui, a eu sa puberté, mais qui est attiré sexuellement par des enfants qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu la puberté.
Qui ne sont pas encore pubères, oui.
Exactement. Ça c'est judiciable, hein, celui-ci, bien évidemment. Le voyeurisme fait partie de la paraphilie aussi. Donc c'est quoi ? C'est le plaisir sexuel obtenu en observant les individus à leur insu, dans leur relation intime. Ce peut être observer quelqu'un qui prend sa douche, quelqu'un qui se déshabille, ou quelqu'un qui a des relations sexuelles. J'ai lu dans un journal l'autre fois quelqu'un qui a été condamné, un homme politique, parce qu'il avait installé des caméras des toilettes féminines. Il donnait quelque chose à boire aux femmes pour qu'elles aillent uriner. Donc lui, c'est du voyeurisme. Il a été condamné. L'exhibitionnisme aussi est judiciable. Donc ça, c'est quoi ? C'est s'exhiber en public, montrer ses organes génitaux. Et une petite réflexion que je voulais faire à tous ceux qui disent qu'il ne faut pas montrer ses seins dans la rue ou sur les plages, ce n'est pas encore considéré comme de l'exhibitionnisme de montrer ses seins, parce que c'est uniquement les organes génitaux. Voilà, c'est ça qui est condamnable.
D'accord,
mais peut-être qu'un jour, on ne pourra plus montrer ses seins. Le frotteurisme. Le frotteurisme, c'est, bon, on en a parlé dans le métro, c'est les gens qui frottent contre d'autres personnes qui sont non consentantes.
Bien sûr.
Le masochisme sexuel. Tout à l'heure, en tout début d'émission, vous parliez de la douleur et du plaisir, avec ces zones qui sont très proches l'une de l'autre. Eh bien, pour celui qui est masochiste, il y a cette notion de « je veux ressentir de la douleur et il n'y a que comme cela que je ressens du plaisir sexuel ». Ça va de pair parfois avec le sadisme sexuel, ça va de pair. Je dirais qu'il y a de l'autre côté un sadique sexuel, et lui, le sadique sexuel, il va infliger de la douleur ou de l'humiliation. Et puis, il y a ensuite deux paraphilies qui ne sont pas condamnables ni judiciables. Et je vais vous parler du fétichisme. Le fétichisme, c'est quoi? C'est utiliser des objets non sexuels, comme par exemple des chaussures, des gants, du latex, être attiré par n'importe quoi, je ne sais quoi, ou des parties du corps habituellement considérées comme non érotiques, comme les pieds. Mais ça, il y a énormément d'hommes qui sont fétichistes des pieds, et beaucoup plus qu'on ne croit. Et puis enfin, un autre qui me tient à cœur, parce que non, il n'est pas judiciable, il n'est pas condamnable, c'est le transvestisme. C'est le plaisir sexuel que l'on a du fait de porter des vêtements du sexe opposé. Voilà, alors les paraphilies, ça débute à l'âge adulte, mais aussi à l'adolescence. Et il faut savoir aussi que ça s'exprime de façon fluctuante dans une vie. On peut comparer parfois ça à de l'addiction sexuelle. D'ailleurs, il y a certaines addictions sexuelles qui sont en binôme, en partenariat avec une paraphilie, mais pas toujours. Pas toujours. D'où l'inquiétude de certains patients, d'ailleurs, qui viennent me voir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le fétichisme et le transvestisme n'entraînent pas de conséquences judiciaires. Donc, s'il y a un passage à l'acte délictuel criminel, il y a des conséquences judiciaires. Il faut savoir aussi qu'une personne n'est jamais condamnée pour pédophilie, parce que la pédophilie, c'est quoi? C'est une classification psychiatrique. Et il existe des personnes pédophiles qui sont en détresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Brigitte, et qui n'ont jamais eu de comportement délictuel ou qui n'ont jamais visionné, par exemple, des vidéos pédopornographiques. Voilà. Mais ces gens-là, s'ils sont en souffrance, je les invite à essayer de se faire soigner ou à en parler à quelqu'un de peut-être de
compétent. Tout fantasme qui fait souffrir ou qui pose problème dans une relation nécessite évidemment des soins. Hein. C'est très rare qu'on arrive soi-même, tout seul, dans son coin, à résoudre une fantasmatique qui fait souffrir, évidemment. Merci beaucoup, Ambre. On se retrouve dans un instant, toujours avec Michel Odoul. Vous pouvez réagir 0826 300 300. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. Le Love Conseil.
Alors toute cette semaine, je vous propose en Love Conseil ce livre qui vient de sortir aux éditions de La Musardine, Jeux érotiques pour adultes. C'est Marc Danan qui en est l'auteur. Alors il y a vraiment énormément de jeux, de choses qui peuvent vous amuser, surtout si vous partez en vacances ensemble. Et alors je vous propose aujourd'hui une charade, Michel Odoul. Alors il y en a plusieurs dans le livre, mais j'en ai inventé une et on va voir si vous trouvez la réponse. Oui. Alors c'est assez facile, je crois, hein. J'ai pas voulu vous
voilà,
piéger.
Facilitez-moi les choses en me disant que ça va être facile, comme ça si je ne trouve pas.
Vous serez encore plus
merci,
ridicule.
Merci Brigitte.
On est d'accord. Oui. Non, mais sincèrement, je pense que vous allez trouver. Bon, alors c'est une pratique sexuelle qu'il faut trouver. Alors mon premier, c'est quelque chose qu'on porte, qui permet de porter l'eau, mon premier. Mon deuxième, c'est une partie du corps que l'on voit bien et qui est importante, c'est même, j'allais dire, la charpente du corps. Et mon troisième se trouve dans le pain.
Oui, ou c'est une note de musique aussi.
Si vous voulez.
Voilà,
vous avez trouvé.
Oui, j'ai trouvé, oui.
Alors, mon premier, c'est...
C'est so.
Voilà, mon deuxième...
C'est do.
Voilà, et mon troisième...
C'est mi.
Voilà, sodomie, donc voilà. Une pratique sexuelle. Vous voyez que je vous avais dit, hein, que c'était quand même
merci
assez
Brigitte.
Facile. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Il y a évidemment, dans le livre, on nous donne celle du cunnilingus. J'aime bien les histoires qui parlent de mon premier, donc Q. J'adore faire l'amour sur un bateau descendant mon deuxième, donc le Nil. Mon troisième est pourtant le premier, l'Ain. Mon quatrième est un mec parmi d'autres, Gus. Voilà, bon, celle-là, vous voyez, elle était un peu plus compliquée. Je voulais épargner.
Merci,
hein,
Brigitte.
Vous voyez, bon, et c'est tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de jeux. Il y a aussi des petits scénarios dans ce livre. C'est vraiment, franchement, un livre à emmener dans sa valise si vous partez en vacances cet été. Jeux érotiques pour adultes aux éditions de La Musardine. On s'amusera encore demain, bien sûr, avec mon invité. Maïté, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Michel Odoul, vous écoute.
Bonjour Michel, et
bonjour.
Avant tout. Voilà, donc...
Alors moi, c'est bien parce qu'on va passer du côté gauche.
Voilà, voilà, effectivement, j'ai une douleur en fait qui est assez récurrente, ça va, ça vient. J'ai fait des analyses et tout ça, j'ai rien de particulier, on m'a rien trouvé. Tout est
alors,
normal.
Excusez-moi, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est important, hein, parce que très souvent, quelqu'un a mal quelque part, il a vraiment mal, hein, donc c'est pas dans sa tête, et pourtant on ne trouve rien. Quelle explication vous donneriez comme ça, Michel Oudoul, sur quelque chose qui est quand même assez fréquent, hein?
C'est la grande différence qu'on fait au niveau médical entre l'organique et le fonctionnel. C'est-à-dire que la plupart du temps, les examens permettent de voir quand il y a des lésions, quand il y a des zones organiques qui sont touchées par quelque chose. Mais tant qu'on n'est que sur la problématique fonctionnelle, il n'y a rien qui est visible sur un scanner ou qui est visible sur une analyse de sang, etc. Quelqu'un qui fait, par exemple, un malaise vagal, en dehors du moment où il fait ce malaise, vous pouvez passer les examens que vous voulez, vous ne trouverez pas de traces biologiques de la chose. Et donc, lorsque une douleur existe et qu'elle ne se traduit pas par une réalité physique et mécanique, ça veut dire que la structure elle-même n'est pas touchée, n'est pas concernée, et que la manifestation qui est ressentie est donc une manifestation qui est soit un signal neuronal, soit une manifestation de type spasmodique, mais qui en tout cas traduit quelque chose.
Voilà, donc ça je crois que c'était important d'éclairer bien tous ceux qui nous écoutent sur ce souci. Et donc vous avez une douleur à l'arrière du genou gauche.
À l'arrière du genou gauche, tout à fait. Qui est assez récurrente, et j'ai aussi au niveau des omoplates, souvent des douleurs. Alors bon, l'ostéopathe dit que ça vient essentiellement de mes cervicales et qui descendrait jusqu'aux omoplates, mais c'est assez récurrent, voilà.
Disons que ce serait une douleur aux cervicales qui descendrait jusqu'aux omoplates.
Oui, hein, mais après moi je ressens pas forcément de douleur au niveau des cervicales, c'est vraiment au niveau de mes omoplates où je sens que ça coince. Alors comme pour le genou, j'ai pas de problème particulier de voilà physionomique, mais pas voilà, mais une douleur par contre qui est bien là.
Oui, mais voilà, mais c'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez la zone douloureuse n'est pas obligatoirement la zone qui est la zone originelle de la tension. Vous pouvez tout à fait avoir une tension avec une contracture ou avoir une subluxation au niveau cervical que vous ne sentiez absolument pas sur le plan physique. Mais il faut savoir que la colonne vertébrale, c'est un peu comme ces serpents en bois articulés là, qu'on trouve au Mexique ou en Amérique du Sud. Si vous bougez à un endroit, tout le reste va se mettre à compenser. Et que ce que vous ressentez au niveau de vos omoplates peut être la compensation de la problématique cervicale. Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais c'est tout à fait possible que ce soit ça. Au niveau de votre douleur aux omoplates, c'est plutôt vers l'omoplate droite ou la gauche ?
Eh bien, plutôt la gauche aussi, je dirais.
Oui.
Oui.
Il faut savoir que dans les zones corporelles, dans les latéralités du corps, la latéralité gauche est plutôt en lien avec la symbolique paternelle et avec le masculin. Et que ce qui est porté par les genoux, le genou est une articulation dans les jambes. Les jambes, c'est ce qui nous permet d'aller vers les autres. Ce sont les vecteurs de relations que nous avons au monde et aux autres. Et le genou est l'articulation qui, dans ces jambes, permet de plier, permet de se mettre à genoux. C'est donc l'articulation qui est symboliquement porteuse de la notion de l'acceptation. Et d'accord. Qu'il y a sans doute, derrière des tensions ou des douleurs au niveau des genoux, de la difficulté à accepter quelque chose qui se passe dans une relation à quelque chose ou à quelqu'un de masculin. Donc soit, et bien sûr, dans la symbolique paternelle, ça peut être le père ou une autorité quelconque, ça peut être le conjoint, ou ça peut être par rapport à soi-même des positionnements d'autorité que l'on a besoin d'avoir. Le fait que ce soit derrière l'arrière du genou, ça parle plutôt de quelque chose qui est en lien quand même avec du fondamental et du structurel. C'est donc une symbolique qui est forte. C'est pas un pseudo-événement qui doit être derrière cette tension et au genou. Et il doit falloir sans doute la remettre dans le contexte historique dans lequel elle est apparue.
Oui, avec... Après, bon, moi j'avoue que mon père, c'est quand même une figure, voilà, ça a été très problématique pendant toute mon enfance. Donc, effectivement, je me reconnais pas mal dans ce que vous dites là.
Oui. D'autant plus qu'au niveau de l'omoplate gauche se situe une zone réflexe particulière d'un méridien d'acupuncture qui s'appelle le triple foyer. Et en fait, très globalement, ce méridien d'acupuncture, c'est lui qui a la charge de la capacité à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a sans doute à l'intérieur de vos vécus, de votre histoire, et peut-être d'événements récurrents qui ont rappelé des vécus avec votre père, une vraie difficulté à accepter ce qui a été et à faire la part des choses par rapport à ce qui a été.
D'accord.
Est-ce que vous avez réussi à pacifier la relation avec votre père ou pas ?
Oui, enfin, oui et non, on va dire, parce que c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai eu déjà ma mère qui n'était pas du tout présente depuis que j'ai 8 ans. Bon, c'est une disparition, je mets des guillemets, parce que plus tard on a su que en fait elle avait été assassinée, mais on a retrouvé son corps très longtemps après. Donc c'est mon père qui s'est occupé de mon éducation et de mon enfance, qui était chaotique, voilà, il était violent, il a fait beaucoup de choses très 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 méchantes, on va dire. Je m'étalerai pas plus. Alors ce qu'il y a, c'est que bon, ben moi j'ai coupé les ponts avec cet homme, mais j'ai finalement re-été vers lui en fait pour pouvoir être plutôt dans une démarche de reconstruction, pour enlever en fait de la colère que j'avais vis-à-vis de lui, car je pouvais pas m'épanouir comme ça.
Et parce que vous pensiez qu'il avait une responsabilité?
Ah oui, oui. Oui, oui. Oui.
Et cette colère, elle vient de quoi? Comment, à votre avis, qu'est-ce qui vous mettait autant en colère?
Ce qui me mettait en colère, c'était notamment beaucoup le fait de tout ce que j'ai subi, de ne pas avoir été entendue, en fait, tant que ce soit au niveau des tribunaux, comme au niveau de ma famille, de ne pas avoir beaucoup de soutien. Donc, en fait... J'avais beaucoup de colère aussi par rapport à tout ce qu'il m'avait fait subir, ce qu'il avait fait subir à ma famille, à ma petite sœur, à ma mère.
Mais donc, excusez-moi, oui. Je vais poser une question directe. Pour vous, c'est lui qui a tué votre mère?
Oui.
Et oui. C'est donc ça.
Je l'ai toujours su en fait. Quand d'accord. Ma mère avait disparu, moi je savais déjà.
Vous le sentiez en tant qu'enfant, vous aviez
oui,
cette prescience.
C'est même pas que je sentais. Je dois vous dire même que c'est quelque chose carrément de complètement fou que je vais dire, mais je me rappelle des actes qui ont précédé la nuit de sa disparition très précisément, avec des scènes de violence. Donc mon père était violent envers ma mère. Il lui demandait de partir et tout ça. Et en fait, j'ai un gros trou noir. Je me rappelle plus de rien. Mmh. Et voilà, jusqu'au lendemain matin où là, j'ai de nouveau les souvenirs. Et dans mon inconscient, en fait, depuis que je suis toute petite, je n'arrêtais pas de dire que mon père était responsable et donc il avait tué. Et, mais il n'y avait pas de corps, il n'y avait rien. Tout le monde
bien
me disait
sûr,
non, ta
sûr.
Mère est partie, ta mère, elle est peut-être... voilà, donc... J'ai grandi comme ça jusqu'à mes 18 ans, en fait, où est-ce qu'effectivement, on a trouvé un corps et puis c'était elle. Et que ça faisait tout ce temps qu'elle était effectivement morte et assassinée.
Oui, mais je crois que là, si vous voulez, il y a véritablement, hein, c'était ça la perche que je vous tendais quand je vous disais, vous pensiez qu'il était responsable. Vous ne pouvez pas garder ça comme ça pour vous, il faut vous faire aider. C'est-à-dire que derrière ce que votre corps est en train de dire... commence à émerger quelque chose qui a été retenu au plus profond de vous-même. Il y a même carrément un champ amnésique partiel qui a été mis en place pour vous protéger de la violence et de la douleur de ce vécu-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, à mon sens, dépasser seul. Il faut que vous vous fassiez aider, que vous alliez voir un psychologue qui vous fasse faire un travail vraiment de fond. Et votre corps vous le dit, il faut vous donner la possibilité de faire la part des choses.
Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, au niveau des psychologues, j'ai été en voir plusieurs, mais il n'y a jamais vraiment... Ça n'a jamais vraiment abouti. Par contre, je pensais plutôt à de l'hypnose. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pourquoi pas, mais je penserais plutôt peut-être à l'EMDR, qui serait une manière aussi de libérer le traumatisme.
À condition qu'il soit identifié très précisément.
Le truc, c'est que j'ai une voisine, justement, qui fait cette méthode-là. Elle fait du shiatsu aussi, elle fait d'autres choses. Et elle me déconseille, en fait. Elle me dit que pour moi, il n'est pas préférable de faire du MDR. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Écoutez, surtout si c'est quelqu'un, une praticienne de shiatsu, on va plutôt lui faire confiance. En tout cas, vous avez besoin de personnes sérieuses, solides. Vous savez, comme je le dis souvent, des psychologues, c'est comme les boulangers. Il y en a des excellents et puis il y en a plein qui sont mauvais. Hein.
Non, mais c'est ça. Pour l'hypnose, faites attention. Allez plutôt quand même consulter dans un cadre hospitalier ou dans un cadre clinique.
D'accord.
Ne faites pas de l'hypnose de tous les jours comme on peut la faire pour un certain nombre d'autres choses.
C'est pour ça que je suis sur mes réserves, justement, parce que je veux vraiment pas faire d'erreur. Voilà, j'ai peur aussi de sûrement ce qui va se réveiller, donc j'ai pas du tout envie de faire n'importe quoi.
Il va juste réveiller quelque chose au fond de vous qui est que vous avez été blessé dans votre cœur et qu'il y a une cicatrice qui a besoin de se refermer. Alors c'est vrai que dans le moment c'est assez inconfortable, c'est comme quand on a mangé quelque chose qui nous convient pas et qu'on vomit, le moment n'est pas agréable, mais en même temps ça nettoie et ça libère.
Oui.
je pense qu'il vaut aller voir éventuellement soit un psychiatre, soit un psychanalyste jungien, ou quelqu'un qui travaille effectivement avec des techniques d'hypnose, voire éventuellement même dans un cadre là aussi médical, utiliser des techniques peut-être de rebirth. Parce que comme il y a un fait qui est un fait d'amnésie partielle, il y a besoin de débrayer une partie de la censure qui a été mise en place. Mais ça, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vraiment pris en charge par un vrai professionnel, parce que votre corps est en train de vous dire que sans doute le moment est arrivé de vous libérer de ça.
D'accord. Voilà, moi j'ai fait pas mal de cheminement, on va dire, moi-même, hein, sans être accompagnée.
C'est ce qu'on entend, bien sûr.
Le fait de re-affronter mon père, ça s'est déclenché en fait au moment de la naissance de mon fils, au moment où j'étais enceinte en fait.
Bien sûr.
C'est là que j'ai eu envie de me libérer de pas mal de colère déjà.
Oui,
mais pas pour le fait de pardonner, pas pour lui, pas
non,
pour,
non, non, mais
pas
pour votre
la
fils.
Personne, mais pour moi. Mais... pour moi-même même, j'ai envie de dire.
Oui, oui, mais je pense que...
Voilà,
je pense
c'est
que...
lui le déclencheur.
Oui, mais c'est aussi le moment où les enfants arrivent que pour casser justement le transgénérationnel avec tout ce que ça comporte de négatif, qu'à ce moment-là, le père ou la future mère prend en compte son destin pour nettoyer tout ça. Mais je crois qu'en effet, là, vous avez besoin d'aide. Parce qu'on entend bien ce genou gauche qui continue quand même à plier, même si...
Et puis surtout
vous
vers l'arrière, c'est du racinien, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure.
Oui.
On est là sur de la blessure archaïque, c'est quelque chose qui est très très important à traiter.
Donc merci en tout cas de votre confiance Maïté, et puis bon courage, mais allez-y, vous êtes prête il me semble. Merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et on a compris bien sûr que notre corps nous envoyait beaucoup de messages et on est là évidemment pour essayer de les décoder. Enfin, Michel Odoul est là pour les décoder. Je rappelle que si vous voulez mieux comprendre tout ça, vous pouvez vous procurer « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », c'est aux éditions Albin Michel. Vous donnez évidemment, j'allais dire, toutes les pistes. Alors après, bien sûr, c'est pas toujours facile soi-même de décoder, surtout quand on n'est pas tout à fait prêt à entendre et à voir. Il y a un autre livre aussi qui est intéressant, c'est celui où vous dites pourquoi ça m'arrive à tel moment. J'invente.
Dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi. Oui, c'est ça. Voilà. Quels sont les grands cycles de vie dans lesquels, à des moments donnés, les symboliques mythologiques peuvent nous permettre de comprendre la phase de vie dans laquelle nous sommes.
Voilà. Et c'est vrai aussi que c'est peut-être pas par hasard qu'à tel moment on a, par exemple, une chute, un accident ou quelque chose qui se déclenche. On peut aussi travailler sur ce point-là.
Hein. Sur la phase de vie dans laquelle on est, oui, absolument. Oui.
Sylvie, bonjour.
Oui, bonjour.
Je disais ça par rapport à vous, puisque c'est votre fils qui a déclenché une maladie au moment de l'adolescence, je suppose.
Ben oui, ça a apparu vers l'âge de 16 ans. Il en a 18 aujourd'hui. Donc la maladie, c'est une... En fin de compte, c'est des petites kystes qui se trouvent aux fesses. Et elle gonfle, traitée par antibio, et ensuite avec l'antibio ça se résorbe et ça revient. C'est des cycles. Après les cycles, je peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça arrive, mais voilà, c'est cyclique.
Ce sont des kystes, c'est ça?
Ouais, comme des boules. Des boules, et on est allé voir une dermato. Et elle nous a parlé d'une maladie, ce serait la maladie de Vermeil.
D'accord, et c'est sur les fesses donc, hein, ces kystes.
Et c'est sur les fesses, en fin de compte, c'est pas vraiment visible. Quand il n'est pas en crise, c'est pas visible. Et quand il est en crise, il a beaucoup de mal à s'asseoir.
C'est ça, c'est douloureux, c'est oui, bien sûr.
Ouais.
Mais ça n'est pas inflammatoire, c'est pas comme un furoncle ou un abcès.
Ben, au départ, on a cru que c'était un furoncle.
Parce que
ça a commencé par une petite boule. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est pour ça qu'on est allé voir un dermato et c'est pas du tout un furoncle. Mais ça nous a fait penser avec son papa à ça.
Oui, alors très généralement, les kystes, ce sont des mémoires émotionnelles qui sont retenues que l'on rentre, que l'on enquiste à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que un moment ou un vécu douloureux que nous n'avons pas envie de ressentir, nous allons essayer de le garder, de le cacher à l'intérieur de soi. Et le kyste va nous servir à ça, de la même manière que physiquement parlant, si un jour nous avons une épine qui nous rentre dans la peau à un endroit donné, le corps va enquister cette épine à l'intérieur de quelque chose, d'une sorte d'induration. Cette induration apparemment semble aussi être infectieuse en même temps. C'est donc sans doute que votre fils a des vécus qui sont des vécus dans lesquels il a engrangé ses mémoires émotionnelles, qui sont des mémoires qui sont toxiques, qui existent en lui. Sans doute, peut-être ne les a-t-il jamais évoqués, etc. Mais il les exprime. Et il les exprime pas dans n'importe quelle partie du corps. Le fessier est une partie du corps qui est quand même extrêmement clairement parlante. C'est apparu au moment de la puberté. Je pense donc que l'ensemble des faisceaux de preuves, comme dirait un enquêteur, semblerait dire que peut-être bien qu'il a vécu ou qu'il a ressenti des situations dans lesquelles l'émergence de ce qu'on va appeler la croissance et la maturité sexuelle associée à une zone corporelle donnée ont peut-être pu être difficiles à intégrer et à accepter.
Il est gay, mon fils est gay, et il nous a donc annoncé son homosexualité moi beaucoup plus tôt, et à son papa vers 16-17 ans.
Oui, ben voilà. J'avais pris des précautions, on va dire, sémantiques et oratoires pour amener l'information, mais...
Jusqu'alors, ça s'est très bien passé. On n'a aucun souci dans la famille.
Bien sûr, mais peut-être qu'il peut, vis-à-vis de son père, par exemple, être un petit peu gêné parce qu'il n'est pas comme son père hétéro. Enfin, vous voyez, après, c'est son vécu.
Vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis ce qu'il entend, vis-à-vis l'idée qu'il a de lui-même... Et vous savez, la phase de la maturation sexuelle, la phase de la puberté est quelque chose qui n'est pas simple à vivre, qui est compliqué. Il y a plein d'enfants qui font des acnés, il y en a qui développent des myopies, il y en a qui développent des comportements alimentaires, etc. etc.
Mais là, Sylvie est une bonne mère et donc tout de suite, elle pense qu'elle a peut-être sa part de responsabilité. Voilà.
Oui, mais ça c'est...
Mais non, Sylvie.
Ce que disait Freud un jour dans une conférence, quand une mère de famille lui demandait « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et Freud lui a répondu « Madame, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera de votre faute. » Donc, une fois qu'on a posé cela maintenant, mais c'est toujours la faute de tout le monde et en même temps de personne et de chacun. C'est-à-dire que je crois que derrière ce que votre fils, si j'ose dire, ce que votre fils est en train d'exprimer, derrière ces kystes au niveau des zones fessières, il est en train de signer qu'il faut qu'il se libère de ses culpabilités, de ses complexes, de ses mal vécus et de sa difficulté qu'il a eue à reconnaître et à accepter éventuellement quelque chose qui lui semblait pas normal et qui émergeait. Notre époque est assez facilitante pour cela, où on commence quand même à avoir un discours dans lequel, en dehors de quelques pays un peu archaïques, on voit bien que les choses ne sont pas des questions de normalité ou de maladie ou etc. Donc il faut qu'il s'accueille et il faut qu'il s'accepte profondément et qu'il arrête d'infecter des choses à l'intérieur de lui.
D'accord, ok.
Donc voyez,
il y a rien d'anormal, voilà. C'est
comment vous pouvez l'aider à s'accueillir lui-même, parce qu'au fond, on a bien compris, vous, les parents, vous l'avez accueilli, donc c'est lui qui doit s'accueillir maintenant.
Voilà.
Vous auriez un petit tuyau pour qu'il s'accueille lui-même et qu'il ait des facilités à vivre sa vie le plus sainement et normalement possible.
Ah ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il y a à la fois d'abord de se faire accompagner. Il y a des techniques, des exercices, des ateliers qui permettent de retravailler ce qui va être la notion de la confiance en soi et de ce qu'est l'acceptation entre guillemets de ce qu'on va appeler la différence. À partir du moment où ça va être intégré, il va déjà avoir une capacité à se redresser, à se tenir autrement. Et donc, il va plus avoir besoin de s'indurer un certain nombre de choses dans les zones fessières. La deuxième des choses ensuite, c'est j'irai, moi, sur le plan médical, voir un médecin homéopathe, de façon à ce qu'il lui fasse un draineur. Il y a des draineurs de fond, des choses à base d'une plante qui s'appelle Myristica, etc., qui vont permettre de faire monter à la surface ces kystes qui sont des kystes d'induration. Et ensuite, il a un besoin de fond, comment on va dire ça ? de trouver une expression qui lui permette de se désensibiliser. Donc moi, je redonnerai comme conseil des choses du style une pratique sportive ou martiale, comme par exemple l'aïkido, une pratique culturelle ou sociétale, comme des cours de théâtre ou des cours de chant, c'est-à-dire des éléments ou des
qui vont lui permettre de s'affirmer tel
qui vont lui permettre de voilà de, et puis de réouvrir un champ vocal.
Merci beaucoup Sylvie, merci Michel Audoul. Dis-moi merci. Où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir avec Trina et son invité Bruno Denis. Et demain j'ai le plaisir d'accueillir Marc Vella et vous allez voir que vos fausses notes amoureuses sont peut-être une grande manière de vous améliorer.